Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, semaine spéciale puisque c'est une semaine de déconfinement pour beaucoup d'entre vous et pour intervenants. J'ai sollicité la présence cette semaine dans nos studios et au micro de Monseigneur Bernard Ginoux, que je salue très vite et que je remercie d'être présent. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Nathalie et bonjour aux auditeurs qui nous écoutent fidèlement.
Déconfiné officiellement depuis hier, un anniversaire pour vous avec ces 13 ans de ministère, de mission d'évêque et de serviteur à la suite du Christ. Ce déconfinement, c'est beaucoup de joie dans votre ministère d'évêque. Hein. Déconfinement aussi pour vos brebis, déconfinement aussi pour vos prêtres du diocèse de Montauban.
Oui, Nathalie.
Avec modération.
Avec modération
avec
et en
modération.
Partie. Parce que nous ne savons toujours pas quand nous pourrons célébrer publiquement dans nos églises, certes ouvertes depuis toujours, du moins c'était à nous, évêques, de les laisser ouvertes et aux prêtres de les ouvrir, nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer. Premier point. Le deuxième point, c'est que ce déconfinement est partiel et qu'il touche encore un certain nombre d'aspects de la vie quotidienne où on ne pourra pas vivre comme habituellement. Il y a aussi une inquiétude que je partage avec beaucoup sur les conséquences économiques toute la population et surtout des plus modestes. On ne sait pas très bien non plus comment ceux qui n'ont pas de travail, qui ont été soumis au chômage ou au chômage partiel, vont pouvoir retrouver du travail. Il y a dans mon cœur de grandes inquiétudes à ce sujet sur la situation de la société. On s'est beaucoup occupé de questions de société, dites sociétales, mais il y a là une première nécessité, que chacun puisse avoir du travail. Or, la période n'y était pas favorable, et qu'on puisse nourrir, on puisse se nourrir et vivre, du moins, normalement.
Les plus pauvres, les plus précaires sont touchés directement par cette crise sanitaire autour du coronavirus. Vous êtes inquiet sur votre propre diocèse de ces familles, peut-être des gens en précarité et en grande
sans
difficulté.
Aucun doute, il y en a déjà qui sont manifestés. Il y a de plus en plus de demandes d'aide, d'assistance et puis également des personnes âgées qui ont souffert de grandes solitudes. Je ne parle pas de celles qui étaient confinées en EHPAD, qui ont souffert autrement, mais ces personnes âgées qui ont été loin de tous et qui ont eu peut-être des difficultés à vivre parce que, vu la faiblesse de leur retraite, elles n'en avaient pas les moyens suffisants. Il y a donc un souci de l'Église vis-à-vis de ces plus pauvres, je pense aussi aux migrants. Les régularisations tardent, il n'y a pas eu de fonctionnement des services préfectoraux pour ces personnes et aujourd'hui cela pose nécessairement des difficultés aux uns et aux autres.
Je reprendrai cet extrait donc du chapitre de Saint Matthieu, chapitre 10, verset 28, que vous avez d'ailleurs nommé hier lors de notre premier entretien. « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui a le pouvoir de jeter et le corps et l'âme dans la géhenne. » La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert pendant cette pandémie du coronavirus pour étendre à 9 semaines contre 7 semaines actuellement l'accès à l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse à domicile pour assurer aux femmes une continuité pour leurs droits pendant cette période. C'est terrifiant.
Ma première remarque est que cette décision a été prise par un ministre sans concertation, sans vote, sous le prétexte de la détresse de certaines femmes qui n'auraient pas eu la possibilité de faire pratiquer une IVG pendant cette période de confinement. Je pense que c'est un abus de pouvoir. C'est aussi demander que cette IVG soit pratiquée à domicile par médicament. On touche là à la dignité de la femme, une fois de plus. elle sait bien qu'elle ne porte pas un kyste ou quelque chose d'étranger à elle quand elle est enceinte, et on fait disparaître cet être de 9 semaines. Les échographies peuvent montrer facilement ce que c'est qu'un petit être à 9 semaines. C'est la vie. Et nous avons suffisamment d'éléments scientifiques aujourd'hui pour savoir que cette vie est complète à 9 semaines. Et que donc, l'enfant qu'elle porte, que la femme porte, est viable. Faire disparaître ainsi, sans en parler, c'est renforcer la solitude d'une femme qui se trouve dans cette situation. C'est ne pas l'aider, et c'est aussi pour le père de cet enfant, on dirait aujourd'hui le géniteur, mais je tiens à dire le père, une irresponsabilité très grande, parce qu'il peut ne pas être au courant, il peut ne pas prendre en compte son action dans cette conception, et une fois de plus, c'est la femme qui porte cette responsabilité et qui risque de la porter longtemps. Mon ministère d'aumônier d'hôpital pendant 6 ans m'a fait souvent rencontrer des femmes qui avaient avorté. Et je peux dire que c'était ni un réflexe judéo-chrétien, ce qu'on dit souvent, ni le qu'en dira-t-on quand ces femmes étaient aux portes de la mort et même pas chrétiennes, elles disaient « j'ai fait le mal ». Elles disaient « si je meurs, c'est parce que j'ai tué mon bébé ». Et j'ai découvert cela avec effroi. Et je le redis parce que c'est mon expérience et que je sais que la plupart des femmes qui avortent sont malheureuses de cela. Bien sûr, elles l'oublient, mais ça revient à des moments inattendus et particulièrement quand on est à la fin de sa vie. Alors c'est à ce titre que je demande d'éviter ce drame de l'avortement parce que j'avais longtemps cru que c'était tuer un bébé, un être. Mais plus que ça, c'est tuer une femme et c'est tuer précisément ce que dit le Seigneur dans l'Évangile. Ce n'est pas tuer le corps, c'est tuer l'être intérieur. C'est tuer ce qu'elle est dans sa féminité, dans sa maternité, dans son être profond. Et elle s'en culpabilise quoi qu'il arrive. Voilà mon message qui est pour moi une peine certaine et je voudrais tant que des femmes évitent cela. Elles le font par peur, parce qu'elles y sont poussées. Et c'est vrai qu'avoir libéralisé encore plus cette possibilité est un mauvais service. C'est une fausse bonne solution que l'on a trouvée pour les femmes qui porteraient un enfant. En tant que pasteur, je ne peux pas l'accepter. Et je suis prêt toujours à aider les personnes qui se trouveraient dans cette situation.
Tant de persécutions pour l'Église, hein, Monseigneur Ginoux.
On ne peut pas parler de persécution. Vous savez, c'est comme la question de l'eugénisme. On nous dit, mais non, toutes les lois de société, ce n'est pas de l'eugénisme, parce que l'eugénisme, c'est une pratique officielle d'un gouvernement. La persécution, ce serait la pratique officielle d'un gouvernement. C'est-à-dire quand un gouvernement prendrait la décision de poursuivre ou de refuser l'existence de telle ou telle religion. Donc ce n'est pas à proprement parler cela. Mais nous sommes en situation d'obstacles qui nous sont posés, d'interdits qui sont formulés, dont on peut douter de la légitimité, de la légalité, qui nous obligent sous prétexte d'un danger qui n'est pas prouvé, sous prétexte de ce danger, on nous oblige à prendre des mesures et ne pas le faire serait passé pour de mauvais citoyens, pour des gens qui voudraient laisser le mal s'accomplir. Or, nous ne le voulons pas. Mais nous risquons d'être ainsi présentés, d'être ainsi désignés. D'où la nécessité, tout en respectant ce qui est demandé sur le plan sanitaire, de retrouver notre liberté. Car c'est un droit de l'homme, c'est un droit humain que la liberté religieuse et que le Concile Vatican II, dans son décret Dignitatis Humanae, a rappelé avec force. Donc nous avons à le défendre.
C'est la fin de cet entretien du jour, Monseigneur. Demain, nous fêtons, et c'est une date qui célèbre les apparitions de la Vierge Marie. Nous serons le 13 mai.
Oui, nous rappelons.
La fête de Fatima.
Nous nous rappelons Fatima. Nous nous rappellerons aussi le jour où le pape Saint Jean-Paul II a failli perdre la vie.
Et tout le message qui accompagne ces apparitions de Fatima. Demain, avec vous, Monseigneur Génoux, et en cette période particulière dans l'histoire de l'Église, l'histoire du monde et l'histoire des hommes, cette pandémie et ce virus qui amène peur, angoisse, parfois découragement, désespérance, mais regardons vers Jésus en croix, au pied de Marie, et gardons cette espérance dont vous nous parliez hier, hein, en début d'émission.
Cette espérance, parce que le Christ a vaincu la mort et il est ressuscité, il est vivant et il nous fait vivre. Ne l'oublions pas.
À demain.
À demain.